Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse dans cette nouvelle émission aux rêves, aux mécanismes du sommeil paradoxal, le tout vu par un philosophe des sciences. Oui, nous allons parler dans cette émission de neurophilosophie du rêve, en compagnie de Claude Debreu. Rassurez-vous, nous éviterons de rendre cette émission soporifique. Nous aborderons des questions passionnantes à travers cette neurophilosophie du rêve, d'Aristote à Descartes, avant d'arriver aux travaux de Nathaniel Kleitman et de Michel Jouvet, pour ne citer que quelques noms. Nous nous intéresserons à la raison d'être du rêve. En d'autres termes, le rêve a-t-il une fonction particulière, et notamment une fonction biologique? Nous parlerons du rêve chez l'adulte, mais aussi chez le nouveau-né. Le rêve est-il l'ombre ou au contraire le prototype de la vie mentale? Et notre philosophe des sciences pourra certainement nous aider à y voir plus clair sur ce qu'est le non-rêve, question somme toute très philosophique. Claude Debreu, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du département de philosophie et responsable du collectif Histoire, Philosophie, Sciences à l'ENS, correspondant de l'Académie des sciences et membre de la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. J'indique de suite à nos auditeurs que pour préparer cette émission, je me suis basée sur votre livre « Neurophilosophie du rêve » paru aux éditions Hermann, avec une nouvelle édition augmentée et préfacée par Michel Jouvet qui date de 2006. Le rêve, son sens et sa raison d'être semblent avoir très tôt intéressé les philosophes, et notamment l'Antiquité, et en premier lieu Aristote dans son traité des rêves. Claude Debreu, pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'idée que se faisait Aristote du rêve ?
Le problème du rêve a intéressé les philosophes qui étaient à cette époque-là en même temps des naturalistes, des théoriciens de la nature. C'est dans cet esprit-là que des gens comme Aristote se sont intéressés au problème du sommeil et du rêve. Ils se sont intéressés en une sorte de précurseur de l'aspect physiologique. Alors, Aristote était un grand naturaliste. Il avait beaucoup observé, beaucoup étudié. Donc, le rêve était pour lui quelque chose qui se situait dans un cadre naturaliste. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. La pensée d'Aristote est un moment dans un processus de l'histoire de la philosophie. Et ce processus est continué. Lucrèce, par exemple, avait noté que les chiens rêvaient. Et voilà, des choses de ce genre. Nous sommes dans une sorte de philosophie naturaliste dès le début, n'est-ce pas, de ces questions sur
oui,
le sommeil.
Oui, Lucrèce travaille sur l'animal qui rêve tout comme l'homme. Déjà, on se pose la question de savoir si l'homme est au même plan que l'animal ou inversement, notamment dans la question du rêve.
Absolument. Tout cela se poursuit et si l'on fait de l'histoire des sciences, à ce moment-là, on va aller jusqu'à la révolution scientifique, jusqu'à Descartes. On va remarquer que Descartes avait bien saisi certains traits principaux de la structure fine cérébrale, en particulier de sa plasticité et aussi de sa structure en réseau, et qu'il avait l'idée que le rêve est une sorte d'image qui se peint sur cette structure cérébrale.
Alors, pour appuyer ce que vous venez de dire, Descartes, dans son traité de l'homme, écrit « La substance cérébrale est molle et pliante, tantôt elle gonfle et se tend, c'est là la veille, tantôt elle se relâche en quelques parties, et ça, ce sont les songes. » Donc, vous le disiez à l'instant, il donne un peu cette impression, il préfigure un peu ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la plasticité du cerveau.
Absolument. Bien sûr, bon, cette plasticité, on a des témoignages et puis des concepts bien différents de ceux de Descartes, mais je pense que la philosophie a un certain pouvoir, enfin la philosophie. Disons, dans le cas de Descartes, c'est un philosophe et un scientifique. On ne peut pas dissocier les deux à cette époque-là. Donc, le scientifique-philosophe ou le philosophe-scientifique a cette espèce de pouvoir d'anticipation. C'est ça qui est de plus frappant. Dans tous ces penseurs que j'ai étudiés, d'Aristote jusqu'aux hypnologues contemporains, et en particulier jusqu'à Michel Jouvet, c'est cette espèce de capacité, n'est-ce pas, d'imagination, d'anticipation, d'interprétation anticipée des phénomènes.
Alors venons-en à une des questions que se posent dès le départ à l'Antiquité les philosophes et scientifiques, et encore aujourd'hui. Quelle est la fonction du rêve? À quoi ça sert?
C'est une question qui se pose typiquement, je dirais, dans le cadre de la physiologie. L'un des thèmes importants développés par Michel Jouvet, c'est précisément l'idée que À cet égard, le cas du rêve, le cas du sommeil, et en particulier le cas du rêve, est un cas tout à fait particulier parce que c'est un phénomène physiologique, un des rares phénomènes physiologiques dont nous n'ayons pas la fonction, dont les physiologistes n'aient pas véritablement la fonction ou les fonctions. La plupart du temps, les physiologistes connaissent, je dirais, les tenants et les aboutissants des phénomènes qu'ils étudient. Dans le cas du sommeil et en particulier du rêve, ceci est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. Il faut bien se dire que dans beaucoup de domaines scientifiques, n'est-ce pas, on est précisément à la frontière entre le connu et l'inconnu. Et il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. On a des éléments pour y répondre. Mais, je veux dire, on a toutes sortes d'évidences. Mais pour reconstituer le puzzle à partir de toutes ces pièces, c'est très difficile.
Mais j'imagine qu'il y a des intuitions, un peu d'imagination, pour reprendre un des titres de vos ouvrages. Et notamment, par exemple, peut-être que vous pourrez tordre le cou à cette idée reçue, l'idée que le rêve, le sommeil, et notamment le sommeil paradoxal, puisque ça va avec, permet d'entretenir la mémoire, en tout cas d'activer un peu la mémoire.
C'est une idée qui subsiste. Écoutez, je crois que si vous permettez, je vais prendre les choses d'un point de vue beaucoup plus général. Lorsque Michel Jouvet a découvert, c'était en 1958 ou 59, ce qu'il a appelé le sommeil paradoxal, à la suite de différents travaux américains, mais il les a complétés et il est arrivé à une interprétation totalement différente de l'interprétation américaine, qui était celle de ses collègues Nathaniel Kleitman et William Demen, eh bien, il a développé ce champ-là à partir du paradoxe suivant. C'est le fait que le cerveau est extrêmement actif, y compris dans les structures les plus profondes, pendant cette phase particulière de sommeil, et que cette activité intense, intérieure, ne se traduit pratiquement pas sur le plan moteur, sur le plan de l'expression motrice. Donc il y a une inhibition de la motricité au cours du sommeil paradoxal, et c'est là le grand paradoxe. D'où la question de savoir à quoi sert ce phénomène. Alors, ceci était une des pièces du puzzle, parce que l'association entre cette activité endogène intense et le rêve qui avait été esquissé par William Dement aussi, cette association entre cette activité intense et le rêve était quelque chose à creuser, à explorer. Il s'agissait d'étudier les corrélats cérébraux de l'expérience consciente, pour reprendre le titre d'un célèbre symposium qui a eu lieu à Sénanque en 78. Et il y avait aussi l'aspect comportemental, c'est-à-dire que il était possible de contourner l'inhibition motrice chez les animaux par l'expérimentation. Et à ce moment-là, on observait au cours des phases de sommeil paradoxal l'expression de comportements parfaitement définissables, parfaitement descriptibles, parfaitement stéréotypés. Et ça a été les fameux comportements oniriques qui n'ont fait que renforcer la question « à quoi sert cela ?». Et puis, il y a toute une série d'études sur l'ontogenèse du sommeil paradoxal chez les nouveau-nés avant la naissance, au cours des premiers âges de la vie, le développement des états de vigilance, parce qu'il faut prendre le problème dans son ensemble, éveil, sommeil lent, sommeil paradoxal. C'est toute une structure d'ensemble qui se redéroule en permanence. Et donc, les études sur l'ontogenèse ont montré que le sommeil paradoxal était particulièrement important au stade précoce de la maturation cérébrale. Et puis, il y a eu la phylogénèse. Il y a eu toute la série des études, et tout ça c'est l'œuvre de Michel Jouvet, il faut le dire. La série des études sur le sommeil dans le règne animal, et l'apparition du sommeil paradoxal, très vraisemblablement en même temps que l'homéothermie, en même temps que la régulation thermique, dont ça pose encore une question physiologique. Et donc cet ensemble de données, il fallait les rassembler dans un puzzle. Et il y a eu une hypothèse brillante à un certain moment qui a été proposée par Michel Jouvet, c'est l'idée que le sommeil paradoxal servirait à la reprogrammation des caractéristiques génétiques du cerveau. Alors c'était dans les années 70 et cette époque-là était une époque de très forte interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'était le mot d'ordre des neurosciences, je dirais les neurosciences les plus en pointe à l'époque. Le modèle, c'était un petit peu le modèle américain, c'est-à-dire le modèle MIT. Donc tout ce qui était computer science, informatique, etc., etc., jouait un rôle très important dans les conceptualisations des neurobiologistes. D'où ce terme de reprogrammation. Mais ce terme de reprogrammation, chez Michel Jouvet, il a un aspect beaucoup plus biologique, évidemment. Ça n'est pas seulement une métaphore. Il s'agissait de donner une réalité cellulaire à cette fonction de reprogrammation qui est véritablement quelque chose d'assez vraisemblable.
Mais Claude Debru, vous parlez de reprogrammation chez l'adulte, mais est-ce que cette hypothèse est valable aussi chez le nouveau-né ?
Alors je mettrai la question à l'inverse. Le nouveau-né, c'est une maturation cérébrale. On observe que le sommeil paradoxal ou quelque chose d'analogue au sommeil paradoxal est particulièrement développé au cours des phases de maturation cérébrale. Quant à l'activation interne du cerveau servirait à la programmation, enfin, c'est-à-dire à l'établissement des synapses, tout simplement, qui sont correctes dans le cerveau. Donc ça, c'est une chose. Et puis, ce processus continue tout au long de la vie en diminuant. Je veux dire, la proportion de sommeil paradoxal par rapport à l'éveil et par rapport au sommeil lent diminue d'une manière assez régulière. Mais à ce moment-là, cette fonction de programmation subsiste d'une façon ou d'une autre. Alors, reprogrammation ou programmation, il ne faut pas se laisser prendre au piège des mots. Ces mécanismes qui servent à une chose à un certain moment peuvent servir à une chose un petit peu analogue ultérieurement. C'est un petit peu comme ça que je verrai les choses, personnellement, si je puis me permettre. Mais ce que je veux dire est la chose suivante. Reprogrammation de quelles propriétés ? Des propriétés les plus idiosyncrasiques de l'individu, des propriétés les plus caractéristiques de l'espèce. Là, il y a de grandes questions, on ne sait pas très bien.
Le sommeil paradoxal, si on supprime ou si on essaie d'éviter, par exemple, un individu de rentrer dans cette phase de sommeil paradoxal, quels sont les résultats de ces études ?
On a longtemps cru que le sommeil paradoxal était à ce point, je dirais, et ce sont des travaux américains qui ont essayé de le démontrer, était à ce point nécessaire à l'équilibre de la vie psychique qu'en essayant de voir si des privations de sommeil de longue durée pouvaient avoir des effets, je dirais, sur leur vie mentale, pouvaient induire des phénomènes psychotiques. On n'a pas obtenu de résultats très nets dans ce domaine-là. C'était l'époque où toutes ces observations, tous ces travaux sur le sommeil dit « sommeil à mouvement oculaire rapide » aux États-Unis étaient précisément poursuivis dans un certain esprit, qui était l'esprit psychiatrique, aussi psychanalytique à la mode américaine. Il y avait un intérêt très fort pour les questions touchant la privation de sommeil, la clinique du sommeil, etc., etc., l'insomnie, que sais-je. Mais ces travaux de privation systématique du sommeil de longue durée, et c'était très compliqué à mettre en œuvre, et aussi spécifiquement du sommeil paradoxal, n'ont pas eu des conclusions très claires. On est là dans un domaine de psychologie qui, à mon sens, n'est pas complètement mûr. Nous n'avons pas toujours les outils. Il y a eu de très grands efforts qui ont été faits dans ces années-là pour catégoriser les divers types d'activités mentales, pour spécifier ce qu'on entend par rêve exactement. Ces efforts n'ont pas véritablement abouti à des données très solides, je dirais. Et c'est un sujet d'une très grande actualité, je veux dire, sur le plan scientifique et philosophique. C'est un sujet qui mériterait d'être relancé, certainement, pour toutes sortes de raisons, y compris les raisons de la question des fonctions du rêve.
Arrêtons-nous quelques instants. Vous avez cité les travaux américains et les travaux français, avec notamment l'école américaine et l'école française. Qu'est-ce qui différencie ? Vous avez parlé notamment de ces mouvements oculaires rapides. Donc j'imagine que les Américains parlent de mouvements oculaires rapides, alors que Michel Jouvet et son laboratoire à Lyon parlent de sommeil paradoxal.
Oui, certainement. Alors, il faut quand même replacer les choses, si vous permettez, sur un plan de la chronologie historique. Le sommeil à mouvement oculaire rapide a été découvert à Chicago dans le laboratoire de Nathaniel Kleitman par un de ses collaborateurs qui s'appelait Eugène Azerinsky et qui observait les clignements des yeux des nouveau-nés. Pourquoi observait-il cela ? Enfin, il était question évidemment de tester les différentes excitabilités du cerveau dès la naissance. Et donc, le clignement des yeux des nouveau-nés. Et c'est en observant cela qu'il a découvert une phase de mouvements oculaires rapides qui était assez caractéristique et différent des mouvements oculaires lents que l'on connaissait. Et ça a été une brèche ouverte dans le mystère du sommeil. Une brèche ouverte dans le sommeil dans laquelle se sont engouffrés plusieurs chercheurs, y compris William Dement, qui est devenu par la suite l'architecte principal de la psychophysiologie clinique du sommeil aux États-Unis. William Dement, qui a découvert que ce phénomène était aussi lié à un électroencéphalogramme rapide, qui a découvert que lorsqu'on éveillait les dormeurs au cours de ces phases, ils racontaient des souvenirs de rêve. Et donc tout ça a été le point de départ d'une extraordinaire aventure scientifique. Et puis Michel Jouvet en France, quelques années après, dans un contexte totalement différent, qui était le contexte de l'analyse du rôle du cortex dans le conditionnement, dans le cas des idées pavloviennes, Michel Jouvet, neurochirurgien, il faut le dire, a découvert deux choses importantes précisément l'inhibition motrice au cours d'une phase de sommeil et deuxièmement l'activité intense de structures sous-corticales au cours de cette phase de sommeil qu'il a baptisée sommeil paradoxal. Donc vous voyez déjà deux orientations, une orientation plus psychophysiologique, plus clinique du sommeil, et une orientation plus physiologique fondamentale, plus neurophysiologique, qui a toujours été celle de Michel Jouvet, qui l'a conservée.
Et les deux se rejoignent petit à petit.
La terminologie n'est pas unifiée, c'est certain. Le sommeil paradoxal est une terminologie, je dirais, philosophiquement plus excitante, évidemment. Le sommeil à mouvement oculaire rapide est une terminologie qui ne s'applique pas à tous les cas dans le règne animal, donc c'est une terminologie. Mais enfin, vous savez, c'est très très difficile de modifier les terminologies une fois qu'elles sont installées. Les habitudes, c'est terrible.
Je vous propose de marquer une première pause, si vous le voulez bien, Claude Debrue. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Goûtez l'histoire de la ratatouille, ce ragoût de légumes qui embaume le midi. L'origine du mot est déjà tout un plat. Chacun de ses composants et condiments, aubergines, tomates, courgettes, poivrons, oignons et autres, ont une origine amusante et intéressante à découvrir, où l'histoire, la grande, n'est jamais très éloignée. La ratatouille ou les avatars de la mondialisation des légumes, une émission de notre chroniqueur gastronomique Jean Vito, à télécharger sur le site de Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Claude Debrue avec qui nous parlons neurophilosophie du rêve. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de l'international. Les travaux, on a bien vu, il y avait l'école française et l'école américaine. Peut-être d'ailleurs y a-t-il d'autres écoles en dehors des États-Unis et de la France. Comment petit à petit ces travaux vont s'internationaliser, Claude Debrue?
Alors il y a une chose qu'il faut remarquer, ouvrir une petite parenthèse mais à mon sens extrêmement importante. C'est que la science en France, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, était presque totalement inexistante. Rares étaient les institutions ou les centres qui avaient continué à fonctionner. Et donc, il fallait tout reconstruire. Et ça a été l'honneur de quelques personnalités et de quelques institutions, comme le CNRS et l'Institut national d'hygiène, après la guerre, d'essayer de structurer la machine et de la relancer. De la structurer par des colloques internationaux, et un de ces colloques a été effectué par Michel Jouvet à Lyon, organisé par Michel Jouvet à Lyon en 1963, précisément sur la physiologie du sommeil. Il y en a eu d'autres également. Et puis par le fait d'envoyer aux États-Unis dès 45, dès 46, les chercheurs les plus prometteurs, enfin les personnalités dont on pouvait imaginer qu'elles allaient être effectivement porteuses et créatrices, de les envoyer systématiquement aux États-Unis. Et donc, on peut faire une liste de personnalités qui ont fait leur classe, qui ont littéralement appris les techniques modernes de la neurophysiologie aux États-Unis. Yves Laporte, Robert Naquet, Pierre Buser, Michel Jouvet, Pierre Carli, un petit peu plus tard Jean-Pierre Changeux, Marc Jeanneret, Henri Korn, Alain Berthoz. Enfin, j'en oublie sans doute, évidemment. Mais le quasi-ensemble des neurosciences, telles qu'elles sont magnifiquement développées, développé en France après la Deuxième Guerre mondiale, est allé aux États-Unis ou en Angleterre, ou aussi un petit peu en Suède. Et aussi un petit peu en Pologne, il y a eu des relations avec la Pologne et avec l'Union soviétique également. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir les choses, et ceci a permis sans doute, je dirais, la densité des interactions entre les laboratoires, entre les écoles, dans les années 60-70, et puis ça s'est poursuivi, et maintenant les choses sont totalement internationalisées. Donc il y a eu des discussions, finalement, très fortes, des voyages très fréquents entre les chercheurs français et les chercheurs américains. Et Michel Jouvet est allé fréquemment aux États-Unis, et il a reçu de nombreux chercheurs du monde entier, mais en particulier les États-Unis, dans son laboratoire.
Restons pour l'instant, si vous voulez bien, aux États-Unis. Revenons juste avant notre première pause. Nous avons parlé des mouvements oculaires rapides. J'imagine que des hypothèses ont été émises pour donner des raisons à ce mouvement oculaire rapide, à ce balayage oculaire. Quelles étaient-elles, ces hypothèses ?
Oui, alors il y avait une hypothèse qui était, je dirais, assez obvie, qui était de considérer que ces mouvements oculaires rapides étaient des mouvements, une sorte d'observation de la scène onirique pendant le rêve. Alors c'était une hypothèse, ma foi, qui était admissible, mais qui a été extrêmement difficile à prouver, et qui ne l'est toujours pas. Alors on est tenté parfois de revenir vers cela, on est aussi tenté de l'abandonner. Cette hypothèse a été assez critiquée en France, parce que les mouvements oculaires rapides ne sont pas quelque chose qui accompagne nécessairement le sommeil paradoxal, tant chez l'homme, dans certaines circonstances, que chez l'animal. Donc il y a eu des critiques assez vives, mais ça a été l'occasion de développer tout un pan de l'électrophysiologie qui a été un développement considérable. L'une des parties les plus démonstratives de tous ces travaux sur le sommeil et les rêves, c'est l'activité électrique cérébrale, évidemment, et l'électrophysiologie très clairement. Et là, je voudrais quitter un petit peu le sommeil et le rêve et glisser vers l'attention. Et en France, il y a eu beaucoup de travaux sur l'attention. C'est un problème un petit peu similaire, évidemment. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'attention et je voudrais en particulier rendre hommage, un hommage particulier, au travail de Madame Arlette Buzer sur l'attention. Elle a découvert, au début des années 70, que l'attention se caractérisait par un rythme électroencéphalographique particulier, le fameux rythme à 40 Hz, qui a par la suite donné lieu à une énorme littérature et qu'on a cherché à associer au phénomène de conscience. Donc voilà, avec tous ces outils d'électrophysiologie, d'électro, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, les neurophysiologistes ont abordé de plus en plus nettement le continent de la conscience, qui était réservé un petit peu aux cliniciens. Et puis les neurophysiologistes ont eu de moins en moins de difficultés à admettre que chez les animaux, chez certains animaux, il y avait des formes de conscience qui pouvaient se rapprocher un petit peu de la conscience telle que nous la connaissons chez l'homme. C'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut replacer, par exemple, les travaux sur le sommeil onirique du chat, sur le comportement onirique du chat. Donc effectivement, il y a eu cette espèce de rapprochement qui s'est effectué à cette époque-là.
Venons-en à une autre question, somme toute très philosophique. Le sommeil est-il source d'individuation, Claude Debreuil ? Question que vous posez aussi dans votre livre.
Oui, j'ai beaucoup réfléchi, ayant passé 8 ans dans le laboratoire de Michel Jouvet, ce qui est une très très longue période. Je me suis approprié, si vous voulez, philosophiquement ces questions. Ces questions sont très complexes. Ces questions impliquent des modèles de causalité, des questions de mécanismes biochimiques, etc., etc. Aussi de génétique, bien sûr, la génétique est entrée très rapidement dans le sujet. Et puis, il y avait cette grande idée, qui est l'idée de la fonction programmatrice ou reprogrammatrice du sommeil paradoxal. C'est une grande idée. Il est très vraisemblable qu'il existe une fonction de ce genre et qu'il existe nécessairement un mécanisme pour la réaliser, pour l'effectuer. Alors, à quel niveau, dirais-je, ce genre de fonction peut s'établir ? Michel Jouvet a beaucoup réfléchi et beaucoup expérimenté sur ces questions. Et il se posait effectivement la question de savoir à quel niveau de généralité cette reprogrammation pouvait se situer. Alors, est entrée cette formule, je dirais, un petit peu philosophique, effectivement, le rêve est-il le gardien de l'individuation du cerveau ? Le cerveau est plastique. Il apprend tout le temps, jusqu'à la fin. Il est capable d'apprendre tout le temps. Alors, comment se produit cette assimilation de l'expérience diurne, de l'expérience consciente, dans ces structures cérébrales ? Est-ce qu'il y a un arbitrage entre les limites, qui sont celles internes du cerveau, et tout ce qui entre, n'est-ce pas, par l'expérience diurne ? Il y a vraisemblablement une fonction de ce genre. Alors le terme d'individuation, il est trop vague, trop philosophique, mais un petit peu excitant tout de même. Il signifie que nous nous modifions tout au long de notre vie, que nous apprenons, que nous nous constituons, que nous devenons de plus en plus différents les uns des autres. Et comment articuler cette différenciation avec ce qui fait notre fond commun ? Et est-ce que le sommeil paradoxal, est-ce que le rêve joue un rôle ? Je crois très vraisemblablement dans cette espèce d'assimilation. Alors, on peut baptiser ça apprentissage, mémoire, etc., etc. Je pense que les choses sont relativement peu fixées actuellement, bien qu'il y ait beaucoup d'expériences, mais les choses sont relativement peu fixées. Et ceci fait de ce domaine un domaine, je dirais, si j'avais 25 ans, je serais prêt à me relancer dans une telle aventure qui est une aventure tellement excitante. Et donc, je conseille vivement aux jeunes de se lancer dans cette aventure terriblement excitante.
Et ce sont d'ailleurs les dernières lignes de votre ouvrage « Neurophilosophie du rêve » où vous invitez les jeunes à travailler sur ces questions. Question moins vague, puisque vous parliez de l'individuation, terme un peu vague et philosophique. Le cerveau peut-il se comprendre lui-même ?
Ah.
La réponse peut-être pas forcément évidente.
Non, ça c'est une question de philosophie technique. C'est une question de philosophie technique. Est-ce que les sciences sont capables de se boucler elles-mêmes? Est-ce qu'elles sont complètes? Elles sont capables de donner la démonstration de leur complétude? Il n'y a pas de réponse par oui ou par non à une question de ce genre. Il y a une réponse pragmatique. Une réponse pragmatique par les œuvres. Et là, je voudrais, si vous me permettez, comme souvent les philosophes ne répondent jamais aux questions qu'on leur pose, mais en posent d'autres, un petit peu différentes, je voudrais introduire cette notion d'œuvre et d'œuvre scientifique. Parce que l'œuvre, c'est une construction et c'est une progression. Et nous avons des cas très remarquables d'œuvres neurophysiologiques. Et l'œuvre de Michel Jouvet en est une. C'est une œuvre au sens de quelque chose qui s'est construit et quelque chose qui n'est pas annulé par ce qui vient après. Il faut le dire, l'œuvre scientifique est, à mon sens, quelque chose qui n'est pas si différent de l'œuvre littéraire. Bien sûr, c'est différent. Bien sûr, il y a un progrès. Bien sûr, le moment T et le moment T plus 1 ne sont pas les mêmes. Il y a des données nouvelles qui apparaissent. Mais les grandes architectures, elles continuent à exister. Je veux dire, Lavoisier, c'est une grande architecture. On continue à en parler en chimie. De même, sur le plan littéraire, une œuvre qui vient n'annule pas l'œuvre précédente. Émile Zola n'annule pas Victor Hugo. Donc, ce qui va venir sur le sommeil, sur le rêve, etc., n'annulera pas des œuvres préexistantes comme celle de Michel Jouvet, comme celle de William Dement et d'autres. Le progrès scientifique est quelque chose qui se manifeste aussi par des œuvres. Ce n'est pas seulement des enchaînements d'articles. Alors j'insiste un petit peu lourdement là-dessus, mais je pense que c'est le cas. Et c'est ce qui rend certains problèmes et certaines personnalités qui se sont particulièrement attachées tout au long de leur vie à ces problèmes, particulièrement, je dirais, intéressantes et attachantes.
Merci Claude Debrue. On marque une deuxième pause, si vous voulez bien, dans la troisième partie. Nous parlerons de ce que peut être le non-rêve. A tout de suite.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Claude Debrue avec qui nous parlons de neurophilosophie du rêve. Dans cette troisième partie d'émission, Claude Debrue, juste avant la deuxième pause, je vous posais la question de savoir si le cerveau pouvait-il se comprendre lui-même. Et peut-être pourrions-nous aborder la question du rêve lucide, où chaque individu, peut-être, dans son sommeil, a l'impression qu'il rêve, mais sait qu'il rêve. Il sait qu'il est dans le rêve, on appelle ça le rêve lucide.
Alors, le cerveau peut-il se comprendre lui-même? Donc, revenons à cette question à laquelle on ne peut pas, à mon sens, répondre directement par oui ou par non. Il est certain, bon, là je serai entièrement dans la ligne de Jean-Pierre Changeux, d'où la question, le cerveau peut-il se comprendre lui-même? Que c'est le cerveau qui cherche à se comprendre lui-même. C'est le cerveau qui est le support de toutes nos activités cognitives, c'est le cerveau qui raisonne, c'est le cerveau qui pense, c'est le cerveau qui imagine, etc. etc. Comment faire? Est-ce que le cerveau, plus exactement, est-ce que notre connaissance du cerveau dans son énorme complexité, parce qu'il y a ce moyen de pénétrer dans la question qui est celle de la complexité, est-ce que la reconnaissance de l'énorme complexité du cerveau pourra nous permettre de comprendre ces phénomènes cognitifs qui ne sont qu'une partie du cerveau. En quelque sorte, est-ce que notre connaissance de plus en plus précise du tout du cerveau par des techniques qui se sont énormément développées, qui se sont substituées les unes aux autres, etc., etc., est-ce que notre connaissance de la complexité énorme du cerveau dans ses détails les plus fins que nous avons de plus en plus nous permettra de comprendre en retour les phénomènes cognitifs? C'est un des énormes enjeux des neurosciences actuelles. Et j'aurais tendance à penser que nous en avons la possibilité. Donc ma réponse serait à la fois pragmatique et un petit peu optimiste.
Restons sur ce cerveau qui, je ne sais pas si le terme est bon, mais peut être lucide sur sa condition. Si on reste dans le domaine du rêve, du sommeil et notamment du rêve, lorsque une personne va rêver, c'est notamment, je crois, les travaux de Arvet Saint-Denis ou de Alfred Maury, donc la personne va rêver et va inclure dans son rêve justement quelque chose qui est extérieur à lui. Par exemple, Alfred Maury rêve qu'il va se faire guillotiner, et au moment où effectivement il rêve qu'il va se faire guillotiner, il y a la flèche de son lit qui lui tombe sur les cervicales. Alors, comment le cerveau va-t-il intégrer cette information qui va être ensuite retransmise dans son rêve ?
Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Le rêve de Maury, à savoir, est-ce que, c'est une question qui porte sur la temporalité finalement, est-ce qu'un événement extérieur est capable de déclencher toute une séquence narrative dans le cerveau ? Et dans ces conditions, est-ce que cette séquence narrative aurait lieu sur une durée très faible ? Alors que nous avons tendance à penser, n'est-ce pas, que le rêve... Tout le monde ne pense pas de cette façon, mais nous avons tendance à penser que le rêve est une séquence narrative qui correspond assez étroitement à des phénomènes physiologiques observables, l'électrophysioactivité électrique cérébrale, etc., etc. Et le phénomène du comportement onirique du chat va dans ce sens. C'est toute une séquence temporelle. Alors, est-ce que cette caractéristique que l'on suppose en appliquant une règle philosophique, un petit peu, qui est la règle du parallélisme psychophysique entre les événements psychiques et les événements physiologiques. Est-ce que cette règle est universellement valide ? Certains posent la question. Donc, le rêve d'Alfred Maury, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté. Il y a eu des interprétations de ce phénomène. La question n'est pas close. Cela dit, vous avez parlé d'Alfred Maury et vous avez parlé d'Hervé de Saint-Denis, qui est l'homme qui a noté beaucoup de rêves et qui a, comment dire, observé ce phénomène de la lucidité dans le rêve, qui est un phénomène extrêmement intéressant, étrange et sans doute très très révélateur de choses qui pourraient, un jour ou l'autre, être étudiées. Enfin, parce que là, nous rentrons dans un phénomène très particulier, qui est le fait que le rêveur peut ou peut ne pas être conscient du fait qu'il rêve au moment où il rêve. Certains individus sont des rêveurs lucides. Le rêve lucide peut, semble-t-il, s'entraîner. On peut s'entraîner à devenir un rêveur lucide.
Et choisir ses rêves ?
Alors, choisir ses rêves, nous n'en sommes peut-être pas là. Je pense que c'est un continent tellement riche, tellement à détermination tellement multiple, que choisir ses rêves, non. Mais essayer d'établir des régularités dans le rêve par rapport aux événements de la vie consciente, c'est un champ d'étude qui est tout à fait légitime, et certaines personnes, Michel Jouvet le premier, se sont engagées dans ces travaux. Et je voudrais rappeler que Michel Jouvet n'est pas seulement un physiologiste, mais que c'est aussi un anthropologue, un ethnologue, et que ses travaux ont d'immenses conséquences, en particulier pour l'anthropologie, tout simplement. Et donc, Michel Jouvet a étudié avec Monique Jessin les rêves d'un jeune noir transplanté à Paris, en essayant d'établir des régularités dans ses rêves et d'en tirer des conséquences.
80% de ses rêves venaient de son village en Afrique, voilà. Et 5% de son voyage à Paris.
Voilà. Cela dit, la question du rêve lucide, elle est différente, mais elle est très révélatrice. Est-ce que tel ou tel de nos collègues serait-il intéressé, et c'est très difficile à réaliser bien sûr, mais serait-il intéressé par l'idée de comparer à l'aide des techniques les plus récentes d'imagerie cérébrale l'activité cérébrale au cours du rêve non lucide et au cours du rêve lucide. Je rêve de cela. Et ça serait une voie d'accès magnifique, mais très difficile à mettre en œuvre, d'où peut-être le fait qu'on n'ait pas encore réussi cela, pour rentrer dans les mécanismes de la conscience réflexive. On aurait là, je pense, un phénomène particulièrement adapté pour rentrer dans ces questions, qui sont des questions aussi scientifiques brûlantes, évidemment. Voilà, donc c'est un appel très net, sinon collaboration du moins. Ceux qui voudront bien se saisir de ce problème auront certainement beaucoup de choses à nous raconter.
Nous arrivons au terme de notre émission, mais encore deux questions très importantes. La première, puisque je l'ai citée au début de cette émission, on a parlé du rêve, mais qu'est-ce que le non-rêve ? À quoi cela correspond-il ?
Alors justement, voilà une question, on parlait de psychologie. Lorsque l'on associe tel ou tel phénomène physiologique au rêve, il faut définir le rêve, et c'est peut-être plus difficile à définir que le phénomène physiologique en question. D'où la nécessité de contraster en quelque sorte le rêve, et ce qui n'est pas le rêve, mais d'autres activités mentales au cours du sommeil. Et ceci a été une grande voie de recherche qui a été empruntée en particulier aux États-Unis, qui a été développée par les Américains, comme William Dement, David Fulkes, etc., qui était l'un des termes du fameux parallélisme psychophysiologique. Donc il était important de définir le rêve et ce qui n'est pas le rêve. Eh bien, ça a été très difficile. Et c'est toujours un sujet débattu. Les chercheurs ont un petit peu eu tendance à abandonner la partie après avoir fait beaucoup d'études, après avoir reçu des financements pour cela. Maintenant, c'est un domaine de recherche qui est un petit peu moins soutenu qu'il ne l'a été dans le passé. Je pense qu'il faudrait le relancer parce que nous sommes dans un état de la science, vous avez un état X de la psychologie, et puis vous avez des techniques des neurosciences qui évoluent énormément, l'imagerie qui est rentrée là-dedans, qui a consolidé beaucoup de choses, qui en a ouvert beaucoup d'autres. Et donc il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure et essayer de recoudre et de reconstituer ce fameux parallélisme psychophysique sur lequel personnellement en tant que philosophe je m'étais beaucoup interrogé à une certaine époque. Et puis j'étais allé voir William Dement à Stanford et je lui avais posé la question. Parce qu'il me semblait, j'avais l'impression que ce parallélisme psychophysique il n'était pas bien établi. Et alors je lui avais posé la question de son utilité. Et il m'avait répondu très clairement, « More useful than ever », plus utile que jamais. Effectivement, c'est un petit peu le seul guide, le guide principal, philosophiquement parlant, de tous ces travaux sur le sommeil et le rêve.
Il reste encore beaucoup de travail à faire.
Tellement fascinant.
Dernière question, c'est celle de Michel Jouvet. Alors, je vais me permettre de la citer, vous allez pouvoir y répondre. Est-il dangereux que l'homme puisse un jour commander les mécanismes du rêve ? Claude Debreu.
Oui, je suis totalement d'accord avec la question.
Mais cela est-il déjà possible ?
Est-ce que la réponse est si évidente ? Est-ce que c'est déjà possible ? Écoutez, je ne suis pas omniscient. Lorsqu'on se demande si une chose est déjà possible, on se demande si en réalité quelqu'un l'a déjà fait ou a déjà essayé de le faire. Il n'est pas impossible que quelqu'un, ici ou là, ait déjà essayé de le faire. Je ne suis pas omniscient, je ne sais pas, j'avoue mon ignorance. Mais la question de Michel Jouvet est particulièrement pertinente. Parce que la neurobiologie, la neurophysiologie, la neurochimie a ouvert un monde de médiateurs cérébraux, etc., etc., bien connu maintenant. Et il est certain que l'on peut agir sur ce monde. Alors, dans quel sens on peut agir ? Ça n'est pas évident. Je veux dire, je ne suis pas un spécialiste de médecine, je ne suis pas médecin, malheureusement, je le regrette beaucoup. Il est bien évident que l'immense domaine de la psychiatrie a été quand même fortement révolutionné par le domaine des psychotropes. Il n'est pas exclu que l'on puisse un jour commander les mécanismes du rêve. On ne sait certainement pas quels seraient les effets de cette commande, dans quel sens cela irait. Mais il y a toujours un danger. Et donc, nécessité d'une sorte de veille régulatrice qui s'est imposée d'ailleurs dans beaucoup de domaines de la biologie. Bien évidemment.
Merci Claude Debreu. Je vais redonner le titre de votre ouvrage à partir duquel nous avons travaillé, nous avons réalisé cette émission, Neurophilosophie du rêve, avec une préface de Michel Jouvet, rééditée, augmentée, éditée en 2006 par les éditions Hermann, et puis deux autres ouvrages que nous avons rapidement évoqués au cours de cette émission. Le premier, l'imagination et l'intuition dans les sciences, notamment sous la direction, vous d'abord, Claude Debreu, mais également Pierre Buser et Andreas Kleinert. Vous avez parlé plusieurs fois de Pierre Buser au cours de cette émission. Pareil, paru édition Hermann. Et puis le dernier, l'essor de neurosciences, avec notamment votre contribution, mais aussi celle de Jean-Gaël Barbara et de Céline Chéry-Sy.
Et de bien d'autres auteurs.
Et de bien d'autres auteurs, oui, tout à fait, vous avez raison, puisque ça reprend un colloque, l'ensemble d'un colloque. Merci Claude Debreu, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Et j'indique aussi à nos auditeurs qu'une émission en habit vert vous a été consacrée, où nous avons parlé essentiellement de vos rencontres, de vos nombreuses rencontres au sein de votre parcours. Merci et à bientôt, au revoir.
Merci.